Débat et controverse sur BFM Business. Les experts. Spécial élections européennes. Nicolas Dos.
Les experts en direct du Parlement de Bruxelles pour réagir aux élections européennes. Alors, de quoi parlons-nous vraiment aujourd'hui? S'agit-il d'un événement politique qui chamboule l'équilibre du Parlement européen ou en fait de chocs politiques très nationaux avec la poussée de l'AFD en Allemagne, le score du Rassemblement national plus de deux fois supérieur à celui du parti de la majorité présidentielle et évidemment l'événement politique de 21h avec l'annonce d'une dissolution. On se demandera aussi si les petit mouvement de marché que l'on observe avec un recul de l'euro face au dollar ou encore une ouverture en baisse de près de 2% de la Bourse de Paris peuvent être considérés comme des réactions brutales sur le terrain économique. A priori, c'est pas mon opinion, mais enfin, on verra ce qu'en pensent mes invités. Et puis, on ouvrira quand même quelques-unes des grandes questions européennes. Parce qu'il y a des questions européennes, d'ailleurs, ces élections qui ont souvent été regardées par un prisme franco-français, pour ne parler que de la France, sur les questions de politique industrielle, de financement des grandes transitions, et les questions aussi de libre-échange, de l'avenir que l'on peut donner aujourd'hui aux accords de libre-échange, sachant que dans l'ensemble de l'offre politique des candidats français aux européennes, il y avait à peu près 50 nuances de protectionnisme. Également une question qui, elle, pas du tout été traitée, la démographie. Il y a un cas européen sur la démographie. En 2024, c'est la première année où la population européenne a reculé. Le continent européen est le seul continent au monde à perdre de la population active. Il y a 600 000 actifs de moins tous les ans. Nous avons aujourd'hui 5% des Européens de plus de 65 ans qui travaillent, quand ce taux aux États-Unis n'est pas de 5%, mais de 20%.
Les experts, spéciale élections européennes sur BFM Business.
Bonjour, Jade Grandin de L'Épreuvier.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. J'avais l'habitude de vous recevoir dans les studios parisiens, mais vous êtes aujourd'hui correspondante de l'opinion à Bruxelles. Donc, comme je me dis, on venait à Bruxelles, c'était l'occasion de se retrouver. Roland Gillet, merci d'être resté avec nous. À la fois franco-belge, j'ai envie de dire, mais belge évidemment d'origine, professeur d'économie financière à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et également à l'Université libre de Bruxelles. Et puis, conseiller auprès de différentes autorités publiques et privées. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Rebonjour.
Professeur à l'ESCP, vous avez publié « Redécouvrir les physiocrates » chez Odile Jacob. Si quelqu'un peut m'apporter mon sac que j'ai laissé en régie, il y a le numéro de Pour les Côtes.
Absolument.
Mais quand même apporté de Paris,
oui,
je n'ai pas oublié.
Oui, j'avais vu ça, oui.
Mais il est resté dans mon sac qui est juste à l'entrée de la régie. Quelqu'un va sûrement... On parle de sport et de sport business notamment.
Oui, absolument.
À la une du numéro de Pour les Côtes. Jade Grandin de L'Épreuvier, je disais, qu'est-ce qui doit focaliser notre attention? Un Parlement européen dont on se rend compte finalement que les grands équilibres pour l'instant à l'heure à laquelle nous parlons ne sont pas fondamentalement modifiés. Oui, il y a effectivement une poussée des droites les plus foncées, mais enfin pour que cette poussée des droites les plus foncées soit vraiment opérationnelle, ça supposerait que il y ait des alliances entre plusieurs formations qui pour l'instant n'existent pas. Donc on a toujours un Parlement européen qui est dominé par PPE. Tandis qu'effectivement, on en parlait dans le journal de Léo Dumas, eh bien, le parti du chancelier allemand est troisième force politique allemande. Mmh. C'était quand même le traditionnel parti de gouvernement marqué à gauche, un peu l'équivalent de notre PS. Et on a bien sûr le score du Rassemblement national qui a confirmé les sondages en France avec un score deux fois supérieur à celui de Renaissance, ce qui a poussé Emmanuel Macron à partir un peu dans l'inconnu à 21h hier en annonçant qu'il y aurait une dissolution de l'Assemblée nationale avec un premier scrutin le 30 juin et un second tour le 7 juillet. Qu'est-ce que vous retenez en priorité de l'événement européen ou des événements nationaux?
C'est vrai que le paradoxe, c'est que pour le moment, on voit la majorité précédente au Parlement européen qui peut continuer, former, comme vous l'avez dit, de la droite classique, qui est confirmée, qui augmente un peu en siège, des socialistes, qui sont les deuxièmes au niveau du continent européen, contrairement à ce qui se passe en France, et des libéraux. Donc on voit qu'il y a eu 27 campagne nationale durant cette élection, c'est-à-dire c'est pas uniquement en France où on est focalisé sur la politique française, c'était dans tous les pays de l'Union européenne, il y avait des campagnes nationales. Et ce qui était très attendu, autant que de savoir est-ce qu'on allait recontinuer avec la même majorité européenne, c'était, comme vous l'avez dit, les messages nationaux en France et en Allemagne qui sont vraiment les deux moteurs de la construction européenne. C'est-à-dire qu'on savait que les résultats allaient être interprétés non pas seulement comme quels eurodéputés on envoie à Strasbourg, mais aussi à chaque fois, quelle est la conséquence politique pour les chefs d'État et de gouvernement dans leur propre pays. parce que ces chefs d'État et de gouvernement, ils sont de plus en plus puissants pour l'Union européenne au niveau du Conseil européen. C'est eux qui font la politique de l'Union. Donc qu'est-ce que ça donne pour un Macron à Bruxelles, un Olaf Scholz à Bruxelles? Et on a ces deux chefs d'État qui sont tous les deux fragilisés par les résultats nationaux, avec un Olaf Scholz, comme vous l'avez dit, où on voit l'AFD qui passe de 7 eurodéputés à 16 eurodéputés, donc c'est énorme. Et pour la France, on aura, et c'est quand même très symbolique, la première délégation d'eurodéputés français à Strasbourg, ça sera le Rassemblement National, avec une trentaine d'eurodéputés. Et il faut savoir que ça sera la plus grosse, une des plus grosses délégations nationales au Parlement européen. Ça sera les Français du Rassemblement National.
En gros, les Français du Rassemblement National seront la plus grosse délégation.
Une des plus grosses délégations. En gros, 30 eurodéputés avec les Allemands de la CDU-CSU. Donc ça sera les deux grosses délégations, ça sera français RN et allemand de la CDU-CSU. Donc là, il y a toute une séquence qui va s'ouvrir de recomposition des alliances européennes, avec une question majeure qui sera, est-ce que les extrêmes droites arrivent à s'allier?
C'est ça. Hein.
Mais pour le moment, on pense que ça sera pas possible parce qu'ils sont tellement nationalistes, si je résume, qu'ils n'arrivent pas à faire de compromis entre nationalités. On continuerait avec la même majorité, pourquoi pas avec Ursula von der Leyen. Et au final, les plus grosses questions qui se posent, c'est, comme vous l'avez dit, ce qui s'est passé en France. Quelle résonance ça aura sur la scène européenne, avec jusqu'à présent les Européens qui craignaient que la France bascule vers le RN en 2027. Et finalement, ils se disent, mais si ça arrive dès demain, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Union européenne ?
Effectivement, si on imagine qu'il y ait une vraie force politique de l'ensemble des droites les plus dures, ça signifierait que... les conservateurs CRE, les conservateurs et réformistes européens réussissent de Giorgia Meloni, réussissent à s'entendre avec Identité et démocratie de Jordan Bardella. L'AFD, jusqu'à nouvel ordre, est quand même exclue de ID.
Elle est exclue temporairement.
Voilà, compte 15 sièges. Hein.
Voilà, elle pourrait y revenir, parce que 15 sièges, c'est quand même énorme. Donc il y a des discussions sur à quelles conditions pourrait-il revenir dans ID.
15 ou 16 d'ailleurs.
Oui, moi j'avais vu 16 hier à 2h du matin.
Tout ça, effectivement, est un peu mouvant encore à l'heure à laquelle on parle. Il y a aussi Fidesz de Viktor Orban, dont le sort est pour l'instant un peu incertain, mais qui est dans une logique intellectuelle assez proche de ses familles politiques. On ne sait pas non plus ce que va faire le parti démocratie civique que préside le Premier ministre tchèque, qui a quand même beaucoup d'incertitudes sur la capacité à créer une grande famille ou pas au Parlement européen. Est-ce que vous partagez, messieurs Roland Gillet et Jean-Marc Daniel, la lecture que nous faisait à l'instant Jacques Grandin de l'Épreuvier, de finalement la question centrale qui nous occupe ce matin, c'est à mon avis effectivement l'analyse de Jade.
Oui, je partage son point de vue, je rapporterai quand même quelques compléments. Le premier complément, c'est que
Jean-Marc
je pense
Daniel.
Que les grands perdants de cette affaire, c'est les écolos. C'est-à-dire que c'était,
ah oui, non, mais ça,
c'était un scrutin.
J'en avais même pas parlé, Jean-Marc.
Oui, c'était un scrutin qui, normalement, leur était relativement favorable. Je rappelle ce que disait Margaret Thatcher. Il disait, faire élire le Parlement européen à suffrage universel, c'est donner la prime aux extrémistes, aux farfelus, puisque les peuples se défoulent à ce moment-là. Et normalement, elle disait, nous allons avoir des parlements dominés par des communistes et des écologistes. Alors, des communistes, il y en a plus. Et en France, vraiment, là, ils ont complètement disparu. C'est même, on annonce même plus combien ils ont fait. On ne sait pas combien. Il y avait un jeune brillant qu'on voyait dans tous les débats.
Oui, Desfontaines, je crois qu'il est en dessous de 3%.
Oui, il est tout ça. Et les écologistes sont marginalisés. Or, c'est quand même un des enjeux qui est souvent mis en avant au niveau international. C'est un des enjeux qui est répété dans tous les sommets, que ce soit le G20, le G7 et tout ça. Et là, la population manifeste son opposition, en tout cas ses doutes sur les stratégies autour des écologistes et autour d'une forme d'écologie punitive. La deuxième remarque que je ferais, c'est que on a l'habitude de dire qu'il y a une Europe du Nord et une Europe du Sud. Il y a vraiment une Europe de l'Est et une Europe de l'Ouest maintenant. C'est-à-dire
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Quand on regarde par exemple en Allemagne...
Dans l'Europe de l'Ouest, vous avez une partie qui tend vers les 60% et une partie qui tend vers les 120%
oui,
de dette publique.
Oui, non, mais en termes de politique, en termes de résultats, c'est-à-dire quand vous regardez en Allemagne, par exemple, l'AFD pratiquement est le parti majoritaire dans l'ex-Allemagne de l'Est. Quand vous regardez dans toutes les anciennes démocraties populaires, vous avez une forte poussée de la droite et de l'extrême droite. Il y avait des élections en Bulgarie qui étaient des élections simultanément à vos élections européennes et c'est la droite, enfin les gens qui sont en progrès, c'est la droite sortante. Et puis, c'est les pro-Poutine qui ont fait une nouvelle percée avec un discours franchement anti-européen et franchement anti-soutien à l'Ukraine. Donc, il y a véritablement une sorte de césure. Donc, le Nord et le Sud, c'était les endettés et les épargnants. Et là, maintenant, Est-Ouest, il y a ceux qui se reconnaissent vraiment dans le projet européen et il y a ceux qui comprennent pas qu'on les traite aussi mal. Parce que je crois que... Et la dernière remarque que je ferai, c'est par rapport au couple franco-allemand. Je pense que que le couple franco-allemand est amoindri. Il l'avait déjà constaté à la dernière réunion de ce qu'on appelle le triangle de Weimar, c'est-à-dire il y a les Français, les Allemands et les Polonais. Et d'abord, ça s'est fait à des niveaux au chef de l'État. Ils ont pris prétexte que c'était les 275 ans de la naissance de Goethe pour se retrouver à Weimar où il est mort. Donc on a un peu parlé de Goethe et surtout on a parlé beaucoup de la montée en puissance justement de ces pays d'Europe de l'Est qui se considèrent comme maltraités et qui vont, à mon avis, peser beaucoup dans le destin de l'Europe avec cet amoindrissement du leadership aussi bien en Allemagne qu'en France.
Non, mais c'est ce que vous avez remarqué, Benabouda Abdedaïm, c'est qu'on a quand même des pays, parmi les pays fondateurs de l'Union européenne, qui ressortent à titre individuel, à titre national, fragilisés.
Ah oui, le seul qui s'en sort bien, c'est l'Italie, parce que les deux autres sont véritablement...
Oui, l'Italie, effectivement, Giorgia Meloni a gagné son pari. Enfin, oui. Vous dites que les écologistes... Je pense que Marie Toussaint est quand même contente d'avoir fait plus de 5, hein.
Oui,
parce que sinon, c'était exit, hein.
Oui, j'entends bien, mais sur le papier, elle était sur une élection qui aurait dû lui apporter 10 à 15% des suffrages.
Juste un mot, Jeanne, et puis après, je fais réagir Roland Gillet.
Oui, non, c'est ce qu'a reconnu la tête de liste européenne des Verts hier soir. C'est le seul qui a vraiment dit c'est un échec, enfin, on n'est pas trop content des résultats. Et lui, son analyse, c'était 2019, c'était l'élection du climat, tout le monde était derrière. Et 2024, on a oublié, les partis politiques ont mis ça à la trappe. La vraie question, ça sera, est-ce qu'on continue la politique environnementale? Comment on fait, sachant que la droite a beaucoup fait campagne en disant faut arrêter avec les normes vertes? Et là, ça va être intéressant politiquement pour les Verts qui sont complètement amoindris, qui vont essayer de continuer à peser au Parlement européen, mais ça va être très compliqué pour eux. Ils vont essayer d'être un peu une force d'ajustement d'une majorité centriste, mais on voit qu'ils n'arrêtaient pas de tendre des mains à leurs partenaires parce que leur pouvoir a énormément diminué avec ces élections.
Bon, il y a trois sujets forts, hein, sur les questions écologiques. Que va-t-il rester de cette date de 2035 à terme pour l'arrêt des ventes de voitures thermiques neuves? La question du Green Deal qui a commencé déjà à être un peu déconstruit à la suite de la crise des agriculteurs, et puis va-t-on ou pas aller vers un MACF, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, vraiment opérationnel, vraiment efficace, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par rapport à tout ce qu'on a dit, Roland Gillet, vous vous retrouvez ou... On évoquera les questions éco immédiates avec les réactions de marché.
Je me retrouve totalement, mais il y a un point qui est essentiel et qui, à mon avis, on n'a pas encore abordé maintenant, c'est le volet de comment on nous regarde de l'extérieur dans les grands blocs. Par exemple, comment... C'est interprété aux États-Unis, comment la Chine voit ça, l'Asie de façon générale. Et même la Russie, c'est vrai qu'ici, avoir les deux plus grands qui sont en incertitude et dont un doit attendre encore un mois avant qu'on ne révèle ce qui va se passer, à un moment où j'ai l'impression que beaucoup de jours qui passent nous éloignent quand même de la compétitivité par rapport aux Américains, même s'ils ont des problèmes internes.
Et comme c'est gentiment dit, Roland.
Mais j'essaye de le dire gentiment.
Comme c'est gentiment dit.
Parce que je préfère le dire gentiment qu'autrement. Parce que c'est vrai qu'il va falloir savoir quand même que même si Meloni en Italie est effectivement, elle, confortée, et que c'est un des pays qui est quand même, en termes de gestion de son endettement et gestion de façon générale de ses banques et autres, a eu des soucis par le passé, et heureusement, Mario Draghi a fait une partie du chemin, et Meloni a l'air de continuer dans ce sens-là. On voit un autre pays, l'Espagne d'ailleurs, où aussi, c'est pas simple, et où pourtant, ils obtiennent aussi des résultats au niveau économique, et on voit qu'on a un tout petit semblant de croissance qui revient en Europe, et pour lequel on peut se féliciter. Et donc, clairement, si on veut effectivement exister sur le plan international, il ne faudrait pas que, comme on a fait par le passé, ce soit un non-alignement ou un alignement des intérêts individuels nationaux au détriment d'un alignement des intérêts communs européens. Et ça, j'ai un peu peur quand même.
Vous avez la réponse, Roland, à ce que vous dites. Vous savez très... Vous avez bien vu sur l'union bancaire, depuis combien d'années on bosse dessus.
C'est pour ça que...
L'union des marchés de capitaux, ça fait 10 ans. Et c'est toujours sur des points de détail qui sont des points de non-alignement qu'on n'arrive pas à boucler ce genre de sujet.
Regardez de nouveau le Green Deal.
La réaction par rapport aux Chinois.
On a mis beaucoup d'argent et on a même été au-devant de la scène pour aller loin à ce niveau-là. Mais on sait très bien maintenant que c'est quand on va aller dans l'opérationnel et le retard qu'on verra si tout ce qu'on a décidé, d'abord on en a les moyens et avec quels moyens on va pouvoir y aller année après année, étant donné quand même qu'en termes de coût de l'énergie, électrique comme autre, nous ne sommes pas des gens qui, par rapport aux Américains, avons un avantage compétitif. Donc clairement, on va voir comment on peut se permettre, au-delà des idées auxquelles je peux souscrire, que la planète, on n'en a qu'une et qu'il faut faire attention, comment est-ce qu'on peut se comporter sur la scène internationale pour qu'on soit crédible.
Sur la compétitivité, je réagis à chaque fois au propos de mon ami Roland, en disant simplement une chose.
Thomas Daniel.
Les exportations de l'Union européenne aux États-Unis, 590 milliards de dollars.
Oui.
Les importations en provenance des États-Unis, 360 milliards de dollars. Nous avons un excédent sur les États-Unis de 140 milliards de dollars. Je ne sais pas qui est le plus compétitif. Sur la Chine, l'année dernière, en 2020,
constant, moi, Jean-Marc.
Oui, 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 en 2022, 400 milliards de déficit. 2023, 295 milliards de dollars de déficit. Anticipé cette année, 150 milliards de déficit sur la Chine. On n'est pas si mal parti que ça en termes de compétitivité.
Roland, juste avant d'évoquer les réactions de marché, sur le côté, le discours traditionnel de Jean-Marc, sur tout va pas si mal et tout va peut-être bien.
Mais je n'ai jamais dit que tout allait si mal. Je dis qu'on a tendance quand même à ne pas voir non plus que je maintiens que tout commerce est important. Mais je pense qu'il y a de grosses différences entre ce qui va probablement être ce qui développe des GAFA au niveau mondial et que l'Europe a très difficile à mettre en place au niveau international, premier élément. Deux, au niveau de l'intelligence artificielle, pour ne parler que ça, pour le moment, même si on fait de gros efforts en Europe et qu'on met du financement aussi, je vois quand même que c'est de nouveau aux États-Unis que ça se passe. Si on regarde au niveau croissance économique, ce qui est quand même important aussi, et au niveau de la suprématie du dollar dans les échanges internationaux, la crédibilité des États-Unis sur différents éléments, on a déjà eu aussi des débats aussi, et je vois qu'il y a... On connaît Jean-Marc, on a beaucoup d'échanges là-dessus. Et ce qu'il dit est vrai, bien entendu, sur le volet, c'est un des éléments. Mais je pense qu'il n'y a pas que celui-là.
Je suis d'accord.
Et je pense
avec
que
vous.
Beaucoup d'Européens, par exemple, si vous prenez l'IRA, prenons juste ça, Inflation Reduction Act, il y a le mot inflation si on veut, mais c'est surtout un bon moyen de venir chercher justement nos compétences à bas prix et de le faire intelligemment. Parce qu'aux États-Unis, on vient créer de la valeur, on a un avantage quand la valeur est créée. Mais on l'a rapidement. Chez nous, on est déjà taxant avant même de l'avoir créé dans pas mal de secteurs. Et donc, je crois aussi qu'il faut regarder l'ensemble et vers l'orientation. On peut toujours regarder ce qu'on a fait, ce qu'on a eu, mais il faut surtout regarder devant nous. Et je pense que les Européens étant désunis, c'est très difficile de mener une politique qui a un sens et qui va dans une trajectoire.
Je suis d'accord avec vous, l'IRA est très mal nommé, c'est un subvention act, c'est tout.
Subvention des fonds européens, je rappelle.
Que
c'est grâce à l'IRA qu'on dégage des excédents maintenant sur le plan
tout
de notre balance de paiement courant sur les États-Unis.
Juste avant de marquer une pause, d'ici une petite minute, est-ce que vous considérez qu'un euro qui tombe à 1,07 et un CAC 40 qui ouvre à près de moins 2%, c'est tous aux abris warning ou pas?
Non, à ce stade, pas encore. De toute façon, les élections françaises vont avoir lieu dans un mois. En un mois, on va décanter un peu les choses, mais de notre côté, ça va pas avoir d'impact considérable. Quand on regarde historiquement, c'est pas tellement les élections en tant que telles, c'est la stratégie que met en place le vainqueur. La dernière fois qu'il y a eu une vraie rupture en France sur le plan de la politique économique, c'est en 81. Et effectivement, la seule traduction la plus concrète que nous avons eue, c'était une débandade du franc, à laquelle a été répondu par une dévaluation, puis une dévaluation, puis une dévaluation, puis la rigueur. On verra au mois de juillet ce qui va se passer. Quand la gauche a regagné en 1997 avec un programme qui était aussi un programme assez aberrant, la force de Jospin, c'est d'avoir renoncé très rapidement à toutes les mesures idiotes, sauf les 35 heures qu'il a gardées. Il ne pouvait pas abandonner toutes les bêtises. On est socialiste ou on ne l'est pas. Il faut quand même qu'on garde une bêtise quand on est socialiste. Donc il a gardé les 35 heures.
On marque une pause. On est en direct depuis le Parlement européen à la suite de l'élection européenne d'hier. On va évoquer un sujet qui, encore une fois, va nous différencier du reste du monde. C'est la démographie. Puis je vous montrerai la une de Pour l'Écho. D'ailleurs, je l'ai récupéré. Vous me direz, Roland, si vous avez l'impression qu'on vit une sorte de tremblement financier et économique à quelques heures des résultats de ce scrutin. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Quelque chose.
Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Les experts, spécial élections européennes, Nicolas Dose.
Et nous sommes en direct depuis le Parlement européen à Bruxelles avec Jacques Grandin de l'Éprevier, journaliste correspondant à Bruxelles de l'Opinion, Roland Gillet, qui est professeur d'économie financière à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles. Il est aussi conseiller auprès de plusieurs autorités publiques et privées. Jean-Marc Daniel, professeur à la ESCP, auteur de « Redécouvrir les physiocrates » publié chez Odile Jacob et membre du comité éditorial de Pour l'Écho, avec à la une du numéro de juin « Sport en France, le grand malentendu ». Et il nous a rejoint Emmanuel Lechip. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On disait, attends, un petit recul de l'euro face au dollar, ça va, une petite ouverture en baisse du CAC 40, c'est pas la première fois. Il faut arrêter de s'exciter sur l'espèce de tsunami économique immédiat qui suivrait cette élection européenne. C'est pas ce qui se passe. Clairement, c'est pas ce qui se passe. En plus, l'euro n'est pas la monnaie de la France. Jean-Marc a rappelé 1980. Aujourd'hui, c'est la monnaie de 19 États. Je ne pense pas que l'euro réagisse au moindre soubresaut politique français.
Je pense que vous avez tort. Surtout qu'il y a deux, enfin, il y a quand même deux sujets politiques qui concernent les deux plus grands pays moteurs de l'Union européenne, qui sont l'Allemagne et la France, avec un résultat pour la gauche allemande qui est historiquement mauvais.
On est d'accord.
La dissolution en France. Bon. Ça explique quand même une certaine méfiance des marchés, qu'on
peut
comprendre.
Pourquoi seraient méfiants les marchés ? Parce que la droite a gagné en Allemagne, la CDU gagne. Est-ce que ça fait peur aux marchés que
non,
la CDU gagne ? Ça
non,
ne paraît pas. Jean-Marc, ça paraît plutôt une bonne nouvelle pour les marchés que
Jean-Marc,
la CDU
les marchés
gagne.
Jean-Marc, les marchés n'ont pas d'opinion politique. Les marchés n'aiment
enfin,
pas.
Préfèrent
les
la marchés, CDU quand même.
Les marchés, on a vu des
ou Parti communiste.
Jean-Marc, il n'y a aucune corrélation entre la nature des dirigeants politiques au pouvoir et l'évolution des marchés. Vous n'allez pas me nier, vous avez cité la gauche depuis tout à l'heure, vous n'allez pas me nier que les plus belles performances des marchés financiers, ça a été fait en France sous des gouvernements de gauche.
C'est vrai.
Donc,
en plus,
ce que je veux dire, ce que je veux dire.
Ça est fier de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, vous dites les marchés vont réagir, puis vous êtes en train de me dire que pas du tout.
Non, Jean-Marc, vous me dites que l'arrivée de la droite, c'est une bonne nouvelle. Je vous dis, les marchés s'en foutent. Les marchés, ce qu'ils veulent. Oui, mais les marchés, ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'incertitude et ils veulent de la visibilité. Là, ils sont dans l'incertitude. Et donc, ils sont gênés par cette incertitude qui infléchit un certain nombre de trajectoires qu'ils avaient anticipées et qui va les obliger à revoir leurs anticipations. C'est tout. Je dis pas que c'est une catastrophe, mais je dis qu'on est dans une zone de turbulence qui mérite quand même quelques attentions.
Encore une fois, en 81, que ce soit une zone de turbulence avec quatre ministres communistes et quelqu'un qui annonce qu'il va nationaliser l'essentiel du système bancaire, qui annonce qu'il va passer à la retraite à 60 ans, je pense que c'est une incertitude qui peut perturber les marchés. Mais dire qu'on est dans l'incertitude parce que la CDU a gagné, je pense que c'est pas une incertitude qui perturbe les marchés.
Considérer qu'on est dans l'incertitude en France parce que la dissolution a été annoncée, Jean-Marc Daniel.
Que va devenir la coalition allemande et que ce qui va... Enfin, je veux dire, quand Jean-Marc, vous faites l'éventail de toutes les hypothèses de politique économique qui peuvent sortir de ces élections législatives anticipées en France, reconnaissez que l'éventail est assez large.
Non.
Est assez large. En matière de fiscalité, en matière de politique sociale,
bon, on va donner la parole,
en matière de politique européenne.
Bon, généralement, quand on prend les programmes, et vous savez bien qu'on fait des programmes en vert, mais qu'on gouverne en prose, et généralement, les trucs les plus lunaires ne voient jamais le jour dans la réalité.
Exactement. Mélanie, elle avait un programme.
La retraite à 60 ans en France, la TVA à zéro sur 100 produits de première nécessité, la promesse d'exonérer de cotisations sociales toute hausse de salaire général de 10% jusqu'à 3 SMIC, vu la facture que ça représente. Et puis la grande idée qu'on va aller chercher des montagnes de milliards en luttant contre la fraude fiscale. Bon, si c'était facile, ça se serait.
Je te racontais que 81, ça avait un sens. Mais déjà, 97, ça n'avait plus de sens. Alors.
Jade, et puis d'abord Roland, par rapport à ce qu'on se disait sur la réaction immédiate économique pure du secteur financier et des marchés boursiers. Roland.
0,2% de baisse aujourd'hui de l'euro. 0,2%, c'est même pas ce qui se passe quand il y a un épiphénomène à gauche, à droite qui fait bouger l'euro dans la journée. Donc si réellement... Surtout, il y a eu beaucoup d'élections, donc il n'y a pas eu que l'élection en France. Donc je pense que les marchés sont plus ou moins confiants sur le fait qu'on est plus à droite maintenant qu'avant. Et sur le fait qu'il y a une stabilisation quand même de ceux qui gouvernent l'Europe maintenant, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ce que les marchés voient. Il y avait une crainte sur l'extrême droite, elle s'est beaucoup moins exprimée, sauf en France, dans beaucoup de résultats, donc il y a au moins une accalmie là-dessus, et spécialement en Allemagne, même s'ils sont importants, ils sont moins importants que ce qu'on avait encore en prédiction, qui pouvait aller jusqu'à 30%. Donc je crois que globalement, et même dans mon petit pays, les choses ont un peu tourné, je vais dire, sur des gens qui pensent quand même qu'il faut remettre un peu de l'ordre dans les finances publiques, d'abord, donc il faut faire attention à ne pas dévisser sur la manière dont on gère l'État de manière dispendieuse. Et donc, je crois que tout ça, ce sont des éléments qui sont pour calmer le jeu. Maintenant, sur l'information qui est tombée, 0,2%, c'est fait. 2% sur le CAC 40, c'est pas beaucoup non plus. Hein. Je veux dire, si un crash boursier à 2%, non. Ce qu'il faudra voir, c'est quand le marché va digérer la suite. Et probablement aussi, ce qui va être discuté bientôt, est-ce que les gens qui vont aller dans un projet contre ceux qui sont pour le moment au pouvoir, seront crédibles, voire est-ce que tout de suite on va voir que la majorité de leur programme, ils pourront pas le développer, ou en tout cas c'est impayable. Donc je pense que c'est ça. Par contre, ce qui est global, et ça je crois que c'est une information pour les marchés, c'est de dire on est au moins retardé d'un mois au niveau européen,
oui,
puisqu'il y a un grand acteur qui n'a pas encore pris des décisions importantes. Et ça c'est dommage. Parce que dans le comportement...
Le grand acteur, c'est la France.
Oui, le grand acteur, c'est la France, bien entendu. Même s'il va falloir gérer des choses en Allemagne, ce que je trouve malheureux, c'est qu'on va encore perdre du temps, alors qu'on sait déjà que quand on se met en place ensemble au niveau européen, une fois qu'on a décidé des choses, il faut encore regarder comment on les appliquer, vu la réaction des capitales. Donc tout retard, surtout sur un gros acteur, pour moi, est un élément qui peut dire que globalement, c'est de nouveau une fragilité du système par rapport aux États-Unis, qui eux sont vraiment États-Unis d'Amérique et le reste.
C'est pas certain qu'il y aura un retard.
Jade Grandin de l'Éprevier.
Non, c'est pas certain qu'il y aura un retard parce que le calendrier est déjà fixé sur les discussions qui vont avoir lieu sur ce qu'on appelle le mercato européen. Donc on doit décider des prochains présidents de la Commission européenne, du Conseil, et ensuite ça doit dérouler. Et en fait, les chefs d'État et de gouvernement, donc ça sera Emmanuel Macron, ça sera pas le Premier ministre, doivent se retrouver dès le 17 juin pour décider de peut-être conduire von der Leyen ou choisir un ou une présidente de la Commission. Et ensuite, cette personne pourrait être élue au Parlement européen dès le 18 juillet. Donc on doute que Emmanuel Macron attendra Jordan Bardella pour dire au Conseil européen qui il veut. C'est sûr que lui, il fera pression pour dire c'est le président qui siège au Conseil, donc peu importe le Premier ministre et la situation en France, moi je déroule l'agenda européen. Et ce qui est intéressant sur l'agenda européen, c'est que il est peu ou prou déjà connu. Il y a un consensus européen pour dire on va mettre l'accent sur la sécurité et la défense. On va mettre l'accent sur la compétitivité parce que tout le monde reconnaît qu'il y a une menace des grands blocs type États-Unis et Chine. Et donc, il faut plus faire pour l'industrie, pour la souveraineté européenne. Ça, ce n'est plus du tout un argument uniquement français. C'est devenu un consensus européen. Donc, au final, ce qu'on a entendu pendant cette campagne, c'était un peu la même chose. C'était renforcer la démocratie, l'économie européenne. Et on se doute déjà de ce qu'il y aura dans les grandes lignes de l'agenda européen. La vraie question, ça va être sur est-ce qu'on refait un grand emprunt européen ou pas. Ça, c'est poussé par la France, de plus en plus par tous les États qui se sentent menacés par la Russie, donc les Baltes, l'Europe de l'Est. Et ce qui sera intéressant pour les marchés, c'est de voir est-ce qu'ils sont prêts à accepter un nouveau... Est-ce qu'ils ont l'appétit pour de la dette européenne encore ?
Je suis sûr que oui.
On en a déjà mis beaucoup. Et ce qui est très drôle, c'est que les arguments des frugaux et des pays plus type France et les autres sont complètement différents. Vous avez les frugaux qui disent « Regardez, la dette d'État, la dette européenne se vend un peu moins bien, en ce moment, ça bouge. » Et les autres, type France, qui disent « Ah non, non, c'est parce qu'on n'a pas encore annoncé qu'on allait faire rouler cette dette. » Et c'est pour ça qu'il y a moins d'appétit. Mais dès qu'on va annoncer qu'on réemprunte, les investisseurs voudront en racheter. Donc il y a cette vraie question...
Je suis à peu près sûr que ce sera le cas.
Probablement, oui. Il y a cette vraie question de emprunt européen, oui ou non. Et c'est ça ce qui va se décider dans les mois suivants.
En tout cas, vous nous expliquez que peu importe les soubresauts politiques des 4 prochaines semaines en France, l'agenda européen des chefs d'État est inscrit dans le calendrier et qu'a priori, il va se dérouler comme prévu.
C'est ça, il y a quand même des grands consensus qui se sont dessinés ces derniers mois.
Il y a quand même des inerties, on nous dit, écoutez, les États-Unis, mais il y a quand même, modèle, perfection, il y a quand même à la tête des États-Unis quelqu'un qui nous raconte qu'il vient d'appeler François Mitterrand pour avoir des nouvelles de ce qui se passait en Europe. Oui. Et donc ça ne perturbe pas le fonctionnement de l'économie américaine. Donc il y a quand même l'idée que l'économie, il y a quand même une logique, et ça ne dépend pas uniquement de quelques individus politiques, de quelques gourous à la tête des banques centrales. Il y a quand même des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, c'est ça qui fait l'économie.
Vous lirez agir, Roland. Ben après, oui, je voudrais qu'on parle un peu de démographie.
Bien entendu, je rejoins ce qu'il vient de dire sur l'agenda européen, mais même quand l'agenda est fixé, même quand c'est les mêmes qui restent au pouvoir, je le vois régulièrement quand je suis proche de certains chefs d'État, à un moment donné, on ne téléphone pas quand ils sont au Conseil européen, on téléphone à celui qui a le pouvoir d'un grand pays avant. Et ça se fait souvent bilatéral. C'est là que l'incertitude se trouve.
Biden, il appelle Mitterrand.
On sait bien qu'il avait salué les Cambodgiens en Colombie, mais on connaît ça. Mais bon, de façon générale, on sait quand même le poids qu'a chaque individu à la tête d'un État par rapport à certaines négociations et sur le commerce en particulier, où il y a du bilatéral avant qu'on essaye de trouver un intérêt commun. Regardez sur les voitures, on pourra peut-être en parler.
C'est un marqueur, la voiture.
Je n'en sais rien. Il y a des gens qui n'ont pas de commerce important dans les voitures, ils n'ont pas la même réaction pour voter des choses sur les voitures.
C'est là où...
On n'est pas tous uniques quand même.
C'est là où Jean-Marc a tort. C'est-à-dire qu'en gros, ça montre bien, cette bourde de Biden, ça montre bien que ce qui compte... C'est pas Biden qui commet effectivement quelques absences. C'est qu'on voit bien que ça n'empêche pas la mécanique américaine de prendre des décisions majeures, importantes, rapidement. Et le véritable problème européen, c'est que quels que soient les sujets, vous voyez bien que la nature des processus, des décisions, fait que globalement, sur beaucoup de sujets, c'est souvent trop peu, trop tard, trop compliqué. Et ça, c'est un handicap.
Et sans doctrine.
Quand même.
Et sans doctrine claire. Non, ça va à l'encontre de ce que vous dites. Ça montre que les hommes politiques ont un certain pouvoir, mais ils n'ont pas un pouvoir omnipuissants, omniscients. Ils ne font pas tout, ils ne sont pas tout, ils n'influent pas tout. C'est pour ça que pendant un mois, effectivement, le fait qu'il y ait des élections en France ne va pas changer un certain nombre de décisions qui sont prises de façon microéconomique par les gens qui font vraiment l'économie. Considérez que pour comprendre ce qui se passe, il faut analyser les paroles de tel ou tel membre du gouvernement ou de tel ou tel banquier central. C'est une vision de l'économie qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'est l'économie de marché au jour le jour. C'est une vision soviétique. Il y a le comité central qui a organisé le Gosplan. Et le secrétaire général du parti va vous dire ce qui va se passer. C'est pas comme ça que ça se passe, heureusement.
La réalité, c'est que l'architecture des processus de décision fait partie intégrante de la compétitivité d'une zone économique, Jean-Marc.
On va parler de la compétitivité.
Mais comment on peut dire des choses pareilles? Bien sûr que si. Mais bien sûr que si, la façon dont sont prises les décisions, la preuve, l'Union soviétique avec le plan, ça s'est effondré.
Mais parce que nous ne sommes pas l'Union soviétique, parce qu'on est dans une société capitaliste.
Mais ça montre bien que les processus de décision, ça compte. Et aux États-Unis, on peut mettre un débile, ils sortent de deux présidents qui n'étaient pas les plus compétents et les plus performants de l'histoire, Trump, Biden, ça n'empêche pas la machine américaine de fonctionner. Les prochains dirigeants de l'Europe, ce sera toujours trop compliqué, trop tard, trop peu.
Voilà. Il est certain que l'IRA est un truc qui fonctionne super bien. Oui, c'est Roland qui m'expliquait qu'il faut à peine 4 semaines entre une décision de projet et le fait de se retrouver pratiquement sur place.
Mais c'est des décisions qui sont prises par des entreprises, pas qui sont prises par le ministre.
Il y a bien un moment où la machine décidée par le politique est bien huilée ou mal huilée, trop tardive, trop complexe.
Mais en même temps, il faut reconnaître que l'Union européenne, certes, la machine de décision européenne est très compliquée, mais il y a eu quand même des étapes qui ont été franchies. Et l'Union européenne a réussi à se mettre d'accord pour être beaucoup plus dure face à la Chine avec des vrais instruments de défense commerciale qui sont employés en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez des entreprises chinoises qui sortent d'appels d'offres européens que la Commission déclenche des enquêtes. À l'été, vous aurez probablement une annonce de droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Donc, ça sera extrêmement symbolique. Et tout ça, c'était inenvisageable il y a quelques années parce qu'on disait l'Allemagne ne voudra pas, etc. Donc, d'une part, sur la politique face à la Chine, on est beaucoup plus agressif. Et face aux États-Unis, vous avez pour la première fois une idée de préférence européenne sur la défense qui s'est concrétisée. Donc certes, c'est administratif, ça prend du temps, c'est des objets techniques un peu compliqués qu'on décide au Parlement européen, mais on voit que l'Union européenne a eu cette prise de conscience et qu'elle a franchi plusieurs caps où on pensait que c'était impossible il y a quelques années.
Juste sur les droits de douane, ne montons pas au plafond, s'ils évoluent en Europe, ils passeront de 10% à 15% ou 20%. Enfin, c'est à peu près dans cet ordre-là.
Oui, ou 25%.
Ou 25%. On n'est pas du tout sur la méthode américaine qui les quadruple. Vous vouliez dire un mot, Roland.
On parle de démographie après, parce que c'est un sujet qui n'a pas du tout été abordé.
Mais je pense qu'il faut être excessif ni dans un sens, ni dans un autre.
Je suis d'accord avec vous.
On ne peut quand même pas être dans un monde où on refuse de voir que... Allez, est-ce que vous pensez que la prochaine entreprise de taille mondiale, GAFA X, et vous mettez X que vous voulez, sera une entreprise européenne? Point d'interrogation qui, à mon avis, peut être vite levé. J'ai l'impression que ça va encore être dur maintenant si on va se mettre d'accord pour voir... Avant nos batailles de clochers sur la concurrence à l'intérieur de l'Europe, comment on va en créer une?
Pourtant, le néerlandais ASML commence à marquer des points.
Mais regardez, pourtant, on peut être très positif. C'est pour ça qu'il faut être nuancé. Airbus face à Boeing, là, on l'a vraiment fait. On est un vrai concurrent de Boeing. Donc, personne n'a jamais dit que les Européens ensemble ne sont pas capables de faire des choses. Regardez, quand ils sont mis ensemble, les Anglais rigolaient par rapport au Brexit. On s'est mis ensemble. On est quand même arrivé à faire des choses face aux Anglais quand on s'est mis ensemble. Le seul problème, et je ne dis pas que ce qui est dit ne doit pas être dit aussi, je dis simplement pour le moment, quand je vois des collègues américains qui pourtant, eux aussi, essayent de comprendre ce qui se passe en Europe, ils ont très difficile de savoir où sont vraiment nos leviers de pouvoir et en plus, comment on est heureux parfois de nos faiblesses et en plus, on les montre, notamment sur le plan de l'énergie. Et donc, clairement, encore aujourd'hui, ils sont en train de dire, est-ce que par exemple, certains de vos contribuables dans différents pays sont quand même au courant qu'ils payent l'énergie très cher, carbonée parce qu'ils en ont besoin, aussi parce qu'ils refusent de voir qu'il y en a encore toute une partie qui fait tout le tour de la Terre, où on fait semblant qu'on ne le sait pas, parce qu'on ne trouve pas un accord pour trouver finalement du carboné ailleurs. Est-ce que tout ça est dit? Je pense que non. Et donc ici, à un moment donné, on peut dire, et ça va dans le bon sens, on a fait beaucoup de progrès, et comme vous l'avez très bien rappelé, il y a chaque fois des sujets sur lesquels on veut avancer, mais moi je vois que dans la mécanique du plan d'application, ça devient autrement compliqué. On va voir, puisqu'on va peut-être en parler tout à l'heure sur le pacte de stabilité, les pays eux-mêmes, la capitale, qui aura fait sa projection, on va voir si on l'appliquera de la même manière pour les grands pays que pour les petits, par exemple.
Non, mais on va faire la transition vers la démographie. Oui, vous est cher parce que effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise américaine? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise européenne? Quelle est la nationalité d'une entreprise?
Je connais votre discours là-dessus, allez, continuez Jean-Marc.
Écoutez, une entreprise, ça dépend aussi des gens qui la détiennent. Ça oui. dépend pas du lieu où elle est installée géographiquement, ça dépend des gens qui la détiennent. Qui est en train de détenir le monde à l'heure actuelle? C'est le Japon. Le Japon a le même déficit commercial que la France, sauf que le Japon dégage un excédent de sa balance des paiements courants de 160 milliards de dollars parce que le Japon retire de ses placements à l'étranger 228 milliards de dollars. Nous, on est dans une situation où progressivement, comme on n'épargne pas assez, on perd la propriété de nos entreprises et au nom de l'attractivité, on est en train de se vendre. Une entreprise américaine maintenant, effectivement, les États-Unis sont devenus le principal récepteur de placements étrangers. C'est-à-dire que les États-Unis sont en train de se vendre. Et quand vous regardez les débats qu'il y a aux États-Unis, les États-Unis viennent de découvrir que, y compris leurs universités sont vendues à l'étranger, avec des conséquences sur la qualité du capital humain qui en sort. Tous les débats qu'il y a en ce moment autour de Harvard sont des débats menés aux États-Unis sur le fait que, à force d'avoir accumulé les déficits extérieurs, des éléments essentiels de la souveraineté et de la préparation de l'avenir sont tombés entre les mains de mains qui sont des mains qui ne veulent pas l'avenir positif des États-Unis. Et donc, je crois que le véritable enjeu, au travers de la démographie, puisque effectivement nous allons avoir de moins en moins de main-d'œuvre, c'est d'être capable d'avoir des usines où il y aura de la main-d'œuvre et d'avoir une un pouvoir économique
de détenir, de ne pas être détenu.
Et là-dessus,
alors Jade Grandin-Lépreuvier, oui, allez-y.
Il y a quelques mois, la Commission européenne avait présenté un plan qu'elle n'a pas eu le temps de mettre en œuvre, mais ça sera peut-être pour le mandat suivant, pour dire il faut qu'on y ait une politique d'immigration semblable à celle du Canada, où on doit être beaucoup plus sélectif pour attirer, elle disait, des millions de travailleurs étrangers par an. Donc pour le moment, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été repris dans les discours de la campagne électorale où c'était plutôt sécuriser les frontières de l'Europe.
Enfin, on s'est concentré. C'est plutôt protectionnisme et effectivement sécurité des frontières.
Voilà, oui. Sur l'immigration illégale. Mais il y a eu cette identification d'un problème européen en termes de main-d'œuvre et du fait que notre politique migratoire est beaucoup trop centrée sur l'illégal et qu'on devrait être beaucoup plus sélectif et qu'on a un déficit de travailleurs sur lequel il faudrait travailler. Mais là, ça demande aux pays de collaborer dans un domaine où jusqu'à présent, il n'y avait pas du tout de... Enfin, la migration légale, ce n'était pas un domaine oui. où il y avait une plateforme européenne.
Je vous donne juste quelques éléments de repère. 2024, première année de déclin de la population en Europe. On est le seul continent qui est dans cette situation. Le taux de fécondité est à 1,46. On a le plus faible niveau de naissance en Italie depuis la création de l'État italien au 19e siècle. On a le plus faible niveau de naissance en Finlande depuis que les naissances sont recensées dans ce pays. Oui. Ça nous ramène au 18e siècle. Oui. Donc, plus de dépenses dans ces pays vieillissants, ça tout le monde le comprend, et une base productive qui se restreint, on perd 600 000 actifs par an. Quand j'ai dit ça, en fait, il n'y a pas de solution, à part ce que décrit Jade.
Oui. Il y a soit l'immigration, soit être propriétaire d'usines où la jeunesse oui. mondiale travaille. Oui. C'est ce que disait Mme Merkel en 2013. Elle disait...
Donc l'immigration ou devenir japonais.
Ou devenir japonais, c'est-à-dire laisser les Turcs qui paieront notre retraite, disait-elle. La seule vraie question est de savoir s'ils travailleront dans des usines en Allemagne ou dans des usines en Turquie dont nous serons les propriétaires. Or l'Allemagne a une stratégie qui consiste à être propriétaire. Le Japon a une stratégie qui consiste à être propriétaire. Ce qui suppose d'ailleurs d'avoir une stratégie de change comme le Japon, c'est-à-dire d'avoir une stratégie de change au départ de monnaie forte et ensuite de baisse de la monnaie. Ce que nous ne faisons pas à cause de discours qui sont des discours sur le thème on va faire de l'attractivité, on va faire de la réindustrialisation. Mais on va mettre qui dans les usines réindustrialisées? Et puis il y a des usines, des entreprises. Les entreprises, il faut en être propriétaire. C'est pas la peine d'avoir l'objectif de les mettre à Saint-Flour ou en Bavière.
Vous savez, Jean-Marc, je connais votre discours, mais
on va le donner.
Mais je constate une chose, c'est que à l'arrivée, c'est toujours l'Amérique qui gagne, en dépit de tous ses défauts, en dépit de ses déficits jumeaux, en dépit des excédents que nous pouvons avoir vis-à-vis des États-Unis, qui gagne à l'arrivée, c'est l'Amérique.
D'ailleurs, sur la démographie, juste pour préciser, non, mais c'est juste rappeler quand même que pour le coup, la zone qui est concrètement la plus avantagée et celle qui est la démographie la plus dynamique, c'est quand même les États-Unis.
Absolument.
L'Europe est au milieu, mais la situation démographique est pire en Chine.
Et donc,
concrètement, là l'Europe est vraiment dans une situation intermédiaire.
Quand je disais continent, effectivement, continent asiatique, j'entendais. Allez-y,
il faut voir aussi, on peut tourner toujours le problème d'une manière ou d'une autre, mais moi je trouve qu'il y a quand même des choses qui doivent être dites et qui sont factuelles. Qu'est-ce qui fait aussi que les États-Unis ont vendu quoi? Ils ont vendu leur dette publique aux Chinois. Oui. Quel est le problème pour eux? Sincèrement, ça implique les Chinois dans la réussite des États-Unis, puisque c'est de la dette publique. Deuxième chose, regardez au niveau de leurs entreprises. Je peux bien rejoindre Jean-Marc sur le fait que les Japonais sont propriétaires aux États-Unis, mais jamais majoritaires. Je connais quelqu'un qui a très bien réussi dans mon petit pays. Il disait toujours petit actionnaire minoritaire, petit con, gros actionnaire minoritaire, gros con. Et donc, c'est très clair, celui qui décide, c'est celui qui a la majorité et qui arrive à attirer des capitaux pour financer le reste aussi bien au niveau du capital à risque. Si on regarde aujourd'hui en France, j'entends quand même souvent des gens qui me disent autour de la table, quand il s'agit de capital à risque, pour des entreprises françaises, on est bien comprenant d'avoir des fonds américains qui viennent les préparer et les acheter, et qui souvent montent au capital et qui souvent, après, quand ça réussit, ben partent parce qu'ils étaient là au départ avec le gros, je vais dire, c'est-à-dire de la valeur ajoutée. Et donc, quand je vois ça, je ne peux quand même pas laisser dire qu'un pays qui a en plus comme unité de compte le dollar, qui reste quand même la monnaie pour le moment aussi des matières premières, qui a des avantages évidents au niveau de l'énergie et qui paye son énergie beaucoup plus cher parce que c'est le premier exportateur net, mais aussi le premier producteur de pétrole, et qu'il pourrait encore aller chercher des énergies, même
qui paye beaucoup moins cher, vous lui donnez.
Oui, bien entendu. Et donc, clairement, c'est un avantage qu'ils ont. Mais pour le reste, regardez, j'ai cité les grosses sociétés, ne venez pas me dire que l'actionnariat d'Alphabet, celui qui dirige Alphabet, n'est pas un Américain maintenant qui ait d'autres fonds. Qui n'a pas d'entreprise américaine dans son portefeuille? Qui ne veut pas en avoir? Le succès de la bourse américaine, Bernard, je m'excuse Jean-Marc, si je peux aller jusqu'au bout, aujourd'hui la bourse américaine, prenait les 5 dernières années, la hausse n'est pas due à tout le Standard & Poor's 500. Il est dû à ces entreprises que tout le monde veut. Nvidia, pour le moment, qui n'existe que depuis 4 ans, aujourd'hui elle vaut 3 000 milliards. 3 000 milliards.
Deuxième capi mondial derrière Microsoft.
Il faut quand même rappeler que c'est plus que tout le CAC 40. Et tout le monde en veut. Vous ne pouvez pas empêcher quand même des gens de dire, moi dans mon portefeuille à La Roche-en-Ardenne, dans mon petit pays, ou au milieu de la Chine, je ne peux pas acheter d'Nvidia. Mais ça ne reste quand même qu'une partie qui fait quand même qu'aujourd'hui, les fondateurs sont américains et les décisions sont prises aux États-Unis. Désolé. Et même quand on attire des gens, si on prend le classement des universités du monde, on peut raconter ce qu'on veut. Regardez les classements aujourd'hui, Harvard, toujours en tête, ou une autre entreprise de la côte Est, et si c'est pas, c'est Berkeley, Stanford ou UCLA. Faut quand même regarder où ils sont. Ils vont chercher les compétences parce qu'ils sont aussi capables d'attirer. Et je vais même dire que sur le plan culturel au niveau des universités, quand je vois comment ils recrutent nos jeunes talents conformes aussi bien à la Sorbonne qu'à la London School, c'est parce qu'ils viennent maintenant avec même notre côté culturel. Ils offrent souvent une possibilité au conjoint ou à la conjointe pour trouver un emploi qui lui convient. Ils se mettent dans nos normes et ils permettent en plus à ces jeunes entrepreneurs, parce qu'il s'agit quand même d'entrepreneurs, même s'ils sont salariés, d'entrer rapidement au capital. C'est des motivations et de la reconnaissance qu'on a difficile à donner en Europe. Je veux quand même dire ça également.
Non, c'est non, très mais, clair. Je rebondis sur ce que vient de dire Roland. Effectivement, les Japonais ne veulent pas décider, ils veulent empocher l'argent. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être président. Ils sont actionnaires. Et le retraité japonais, il vit grâce à Nvidia. Mais il ne dirige pas Nvidia. Il laisse Nvidia dirigée par des Américains. Mais il récupère le fruit du travail américain. C'est Peter Navarro, qui est le conseiller de Trump, qui dit « Le système dans lequel on est un système par lequel nous payons les retraites des Allemands et des Japonais en faisant travailler des Mexicains. » Et nous sommes quoi dans tout ça, dit-il? Oui, c'est le conseiller économique de Trump qui dit ça.
Oui, mais derrière ça aussi, dans les fonds de capitalisation américains, les fonds de pension, grâce à la hausse de toutes ces entreprises, le type qui est au milieu du Texas, lui aussi profite de ça et pour sa pension.
Donc oui, il faut regarder. Ça, je m'en moque. L'important, c'est est-ce que le français peut en profiter?
Oui, peut.
Nous pouvons en profiter et les Allemands ont commencé à en profiter. Et le véritable enjeu, c'est pourquoi nous ne faisons pas ce qu'il faut pour en profiter l'Allemand et le Japonais.
Oui, mais ça, je peux être d'accord avec Jean-Marc sur un point. Oui. Là-dessus. Mais
on,
sur
le on centre, referme ce sujet mais, après mais, et donner la parole
mais,
à Jacques.
Mais d'être celui qui est le centre décisionnel, pour moi, c'est encore plus
oui,
important.
Oui, j'ai bien compris ce
que mon vous petit
dites.
Pays n'a plus de centre décisionnel, et je suis ici pour vous regarder tous, parce que les Français nous l'ont pris. Alors, ils ne l'ont pas volé, non. Ils ne l'ont pas volé du tout, d'ailleurs. Mais à un moment donné, on a décidé, pour mille raisons, on trouvait le prix très intéressant, on n'a pas très bien géré les droits des actionnaires, j'entends, dans la manière de se protéger, hein, ce qu'on appelle le poison pill, on ne l'a pas fait, et donc aujourd'hui, notre centre décisionnel, eh bien, il n'est plus à Bruxelles. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est grave, docteur? Non, moi je suis très heureux, mais je dis quand même qu'à certains moments, abandonner tous les centres décisionnels dans des périodes de crise, par
mais
exemple,
moi, je partage
on
votre
l'a bien
avis.
Vu. Hein.
On aura à nouveau ces sujets. Jade, pour terminer, on a vraiment très peu de temps, il nous reste à peu près 2 minutes. Quand je vous écoutais tout à l'heure, vous suivez la chose européenne en tant que journaliste de près, donc dans la précision comme vous nous l'avez parfaitement décrit sur l'agenda qui nous attend au niveau politique en Europe d'ici la mi-juillet. J'ai l'impression à vous écouter qu'il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui ont avancé sur les questions industrielles, sur les questions de compétitivité, sur les questions de capacité à avoir une réponse cohérente vis-à-vis de la concurrence chinoise. Et donc il ne faut pas voir le lendemain de cette élection du 9 juin comme une sorte de de désert et d'absence totale de présence européenne. J'ai l'impression qu'il y avait un message d'optimisme dans ce que vous me disiez.
Oui, oui, parce que les discussions ont déjà commencé à avoir lieu sur qu'est-ce qu'on met dans l'agenda européen des 5 prochaines années, qui on met à la tête des institutions européennes. Et il y a ces nouveaux consensus sur la compétitivité, la sécurité. Donc c'est vrai que souvent on critique l'Union européenne en disant « Ah, c'est une machinerie technocratique », mais parfois ça a du bon, c'est-à-dire que c'est un peu un havre de stabilité avec une construction européenne qui avance. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris quand j'ai couvert la campagne là, électorale, c'est que je demandais à plein de diplomates européens qui sont présents depuis des années à Bruxelles, êtes-vous inquiet par la montée de l'extrême droite qui risque de paralyser la construction européenne? Parce que, in fine, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus d'anti-européens au pouvoir en Europe, donc de plus en plus d'eurosceptiques. Et j'étais surprise de voir que beaucoup de gens qui sont à Bruxelles depuis des années était assez zen en disant écoutez, en fait, la machine européenne, je l'ai vue fonctionner, elle continue de fonctionner coûte que coûte. Donc, soit ils sont tous un peu aveuglés avec la métaphore un peu de la grenouille dans la casserole, vous savez, qui boue très lentement sans s'en rendre compte, et on va se réveiller un jour où l'extrême droite va réussir à arrêter la construction européenne, soit on peut avoir confiance dans le fait que les institutions continueront à fonctionner avec la même majorité qu'auparavant, avec peut-être Ursula von der Leyen. Ah. Et certes, une France et une Allemagne fragilisées, mais une construction mais
ce qu'on voit,
qui
ce qu'on voit quand même,
c'est le mot de la fin, Emmanuel, on a fini.
Ce qu'on voit quand même, c'est que les débats au Parlement européen, on a eu beaucoup d'années où c'était des débats, effectivement, entre anti- et pro-européens. Mmh. Et on voit, quand on voit les opinions publiques, je regardais encore les résultats du dernier Eurobaromètre, etc., sur la construction européenne, il n'y a plus vraiment de débat. Et on retrouve, finalement, au Parlement européen, des oppositions droite-gauche, plus classique que l'opposition anti-européen, pro-européen.
Merci à vous tous d'avoir été en direct depuis le Parlement européen. Le RN triomphe, Macron dissous, c'est la une de l'opinion aujourd'hui. Merci Jade Gandrin de l'Éprevier, Roland Gillet, Jean-Marc Daniel avec à la une de Pour l'écho, Sport en France, le grand malentendu. Et merci Emmanuel Le Chypre de vous être joint à nous pour cette deuxième moitié d'émission. BFM Business continue depuis les studios à Paris. On se retrouve demain à 9h.
Les experts spécial élections européennes sur BFM Business.